Comme chaque semaine, on retrouve un duo célèbre. Il y avait Starsky Hutch à une époque, et puis maintenant, il y a Diego Rabal et Philippe Noni. C'est autre chose, mais est-ce que ça vous arrive, Diego, de passer par la fenêtre du véhicule quand elle arrive?
Oui, mais comme généralement elle est fermée, c'est un peu difficile.
On ne pourrait plus faire
Non.
Starsky Hutch avec la clim aujourd'hui.
Non, 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 c'est clair.
Alors,
C'est clair.
non.
Allez, jour un livre, un auteur. Redevenons sérieux. C'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, Philippe Denis, vous allez nous faire découvrir quelqu'un de très intéressant.
Tout à fait.
On l'avait déjà
Aujourd'hui,
eu.
oui, on l'avait déjà eu, mais alors c'était avant la Covid. Hein. Vous vous rappelez que ça fait 5 ans qu'on était confinés, donc c'était il y a plus de 5 ans. Et nous partons à la rencontre aujourd'hui d'une maison d'édition qui a été créée en 2005. La particularité de cette maison d'édition est que son créateur fabrique ses propres livres, assemble les pages, les relie, les orne d'un tissu de wax ou de batik. Les ouvrages qu'il publie dépassent les frontières de la France. Il a publié le dramaturge congolais Dieudonné Nyangouna, le poète et romancier malgache Jean-Luc Hararima Nana, ou le poète et slameur Edgar Sekoka. Mais qui est donc cet homme qui fabrique et assemble ses propres livres, et ce, bien au-delà de nos frontières? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité du jour. Bonjour Daniel Bezas.
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, comment en arrive-t-on à créer une maison d'édition artisanale, alors au sens noble du terme, hein, quand je dis maison d'édition artisanale, dans laquelle le responsable, en l'occurrence vous, Daniel Bezas, fabrique ses propres livres, les assemble, les ornes d'un tissu de wax ou de batik? Expliquez-nous un peu la création de cette maison d'édition et comment vous en êtes arrivé là.
Alors, ça commence à faire longtemps. donc, en fait, il y avait d'abord simplement le désir de publier au début mes propres textes, parce que j'avais envoyé beaucoup de textes à droite, à gauche, et puis ça ne voulait pas sortir. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais m'auto-publier un petit peu, et puis je vais voir comment ça se passe. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai publié un ou deux textes en les fabriquant, mais je me suis dit très vite aussi que c'était pas très intéressant de se publier soi-même, uniquement soi-même. Et donc je suis parti à la rencontre d'auteurs. Et finalement, ça s'est développé et je publie surtout d'abord les autres et de temps en temps, une fois comme ça, passif par là, un petit texte de moi ou des images. Voilà.
Alors, la particularité de votre maison d'édition, hein, c'est que vous ne faites pas fabriquer les livres par les autres, hein, c'est-à-dire par un imprimeur,
oui, tout à fait.
C'est vous qui les fabriquez. Pourquoi cette volonté, à un moment donné, d'aller jusqu'à la fabrication effectivement de ces livres, parce que ça doit vous prendre un temps effectivement certain, et de le faire, et puis après, on va parler effectivement des personnes que vous avez publiées, qui sont des personnes effectivement qui sont originaires de pays étrangers.
Oui, ben, il y a déjà un grand goût pour le livre en tant qu'objet. Et moi, j'avais envie de faire de l'édition. Et en commençant à prospecter auprès d'imprimeurs, je me suis aperçu que pour faire des livres, il faut quand même un sacré pécule. Il faut pas mal d'argent. Et c'est très difficile dans le commerce du livre de retrouver ses fonds. Donc c'est d'abord un petit problème pécuniaire, on va dire. À mesure où moi j'ai toujours une vie très très modeste financièrement. Et donc j'ai mis au point un système où je pouvais fabriquer et sortir un livre avec très peu d'argent. Et comme je suis quelqu'un de très manuel aussi, et qui a le goût de faire les choses avec les mains et les pensées, je me suis inventé une manière de faire un livre en les faisant un par un à la main. Cela dit, j'utilise quand même une imprimante. Hein.
D'accord.
Et aujourd'hui, il m'arrive pour les tirages où j'ai besoin de 100 exemplaires d'un coup, d'aller voir, j'ai un ami imprimeur avec qui je travaille de temps en temps. Mais ensuite, effectivement, une fois que l'objet est imprimé, je fais le façonnage, je fais l'assemblage et je fais une reliure. Pour chaque exemplaire, il me faut 1 heure de travail à peu près. Voilà. Et depuis que je fabrique des livres, j'en ai fait au moins 20 000.
Donc 20 000 heures de travail.
Voilà, on peut le résumer comme ça.
20 ans, 20 ans de maison d'édition, 20 000 heures de travail, donc 1000 heures de travail par an, quoi, en gros.
Oui, voilà, à peu près.
Alors, en rappelant qu'un temps plein sur une année, c'est 1607 heures, hein, je le signale, hein,
ah bon
1600 heures.
Ah, non,
heures.
Je sais pas.
Ah, ouais, c'est 1600 heures, 1600 heures plus 7 heures pour la journée de la solidarité. Donc, voilà. Ça veut dire que vous passez un mi-temps complet chaque année.
Oh,
je
plus.
Parle uniquement sur l'assemblage des livres. Même
oui,
plus, parce que 1600, ouais, ça fait même plus. Ça fait 62%, ouais. Oui.
Oui, parce que souvent, je suis obligé de travailler à côté pour gagner ma vie. Parce que, évidemment, on ne gagne pas sa vie en fabriquant des livres, comme ça.
Alors, on va parler un peu des personnes que vous avez publiées, donc le dramaturge congolais Dieudonné Nyanguna, le poète et romancier malgache Jean-Luc Raharimanana, ou le poète et slameur Edgar Sekloka. Ils sont quand même de pays lointains, le Congo, Madagascar. Comment vous avez fait pour rencontrer ces gens ?
Ben, en fait, c'est eux qui sont venus à moi.
Et ils sont venus comment ?
J'ai les croisé plus ou moins par hasard en France. Pour Dieudonné Nyanguna, qui est un grand dramaturge congolais qui vit en France, lui j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un acteur de théâtre qui s'appelle Joël Lokosou, qui est béninois et qui se produisait à Lyon à l'époque, et je l'ai croisé simplement. Il était assis, j'attendais mon bus sur la place Delcourt à Lyon, et je vois un grand gars là qui est assis à côté de moi, donc j'avais beaucoup de temps, je commence à discuter avec lui, et puis il me dit voilà, de fil en aiguille, j'ai appris qu'il est acteur et qu'il connaissait un auteur dramaturge.
Donc ça veut dire qu'il faut prendre le bus, vous nous recommandez de prendre le bus, voilà, pour faire des rencontres, quoi, c'est ça?
Oui, il faut avoir rien à faire. Il faut être juste là, attendre et puis et se croiser. Voilà.
Et donc,
Jean-Luc Raharimanana, c'était par l'intermédiaire d'une libraire, la libraire de Saint-Denis, qui s'appelait Sylvie Labat, et qui avait une librairie à Saint-Denis. Voilà, et c'est elle qui me dit, ça serait bien que tu publies cet auteur-là, qui est aussi tout à fait publié ailleurs. Moi, j'ai, avec Jean-Luc Raharimanana, j'ai publié deux textes, un petit nombre d'exemplaires. Et voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement. Je ne peux pas gérer, par exemple, l'arrivée des manuscrits à la maison, c'est tout petit chez moi, et c'est pas possible. Donc,
c'est pas
que
possible.
Des rencontres.
D'accord. Et le poète et slameur Edgar Sekloka, donc je vous pose la question parce qu'on n'a présenté qu'une seule fois une émission, nous, justement, sur le slam, sur Présence, depuis 13 ans maintenant qu'on anime donc cette chronique littéraire avec Philippe Tubercaz et Diego Arrabal. Comment vous l'avez rencontré à lui, Edgar Sekloka, donc poète et slameur?
Eh bien, j'ai du mal à savoir. Je le connais depuis longtemps.
C'est
et
pas
le
ça. C'est pas
souvent,
voilà, c'est ce que j'allais dire.
Je l'ai vu très souvent en concert, et du coup, ça commence à se confondre un petit peu. J'ai même fait des ateliers du livre et d'écriture avec lui.
C'est quoi les ateliers du livre et d'écriture?
Ben, en fait, je propose de faire des ateliers de l'écriture jusqu'à la publication du livre. Ou en peu de séances, quelques séances. On fait écrire des poèmes, par exemple. Ensuite, on fait illustrer les poèmes. Et ensuite, moi, je fais la maquette, j'imprime et je fais une séance de reliure. Voilà.
Et
les gens repartent avec leur exemplaire sous le bras.
D'accord. C'est pour les adultes, c'est pour des jeunes, des enfants.
C'est de tous les âges. J'ai fait de centre aéré jusqu'à maison de retraite.
D'accord.
Ça marche toujours.
Mais je crois savoir que Philippe Tubercaz publie des poèmes. Vous pourriez, Philippe Tubercaz, contacter...
Je sais pas.
Philippe Tubercaz.
Je sais pas. Il faut se croiser, il faut discuter, il faut voir si on s'entend bien. Voilà.
Donc aujourd'hui, alors toutes les rencontres là, que vous avez, on voit, hein, c'est des rencontres alors sur un arrêt de bus, l'autre par le biais d'une libraire, l'autre effectivement donc encore une autre façon de se rencontrer. En fait, vous recevez jamais de tapuscrits, hein, enfin ou de manuscrits,
non.
Comme
non.
Le font les maisons d'édition, on va dire entre guillemets traditionnelles.
Ça veut dire que logistique, pardon.
Ouais, allez-y,
c'est
vous avez une
logistique énorme en fait, les manuscrits, et puis il y a quand même énormément de personnes qui écrivent, et puis quand quelqu'un envoie... Moi j'ai vécu le fait d'envoyer des manuscrits et d'avoir zéro réponse. Donc, ça fait mal au bout d'un moment. Donc, et puis, c'est une énorme responsabilité de dire, voilà, donc, je passe par la rencontre physique, moi, beaucoup plus. Parce que faudrait, c'est un temps en soi. C'est énormément de travail, en fait, recevoir des manuscrits, les lire, les compulser, faire le tri, faire des choix. C'est très compliqué, en fait.
Et c'est très dévoreur de temps aussi, d'ailleurs.
Et oui, parce qu'au-delà des auteurs d'écrits, je publie aussi, surtout, beaucoup d'artistes, peintres, graveurs. Voilà, c'est l'essentiel de mon travail maintenant aussi.
Votre maison d'édition, en fait, hein, comme je disais tout à l'heure, bon, est-ce que quelque part, vous la vivez, comme à une époque, vous avez envoyé des tapuscrits, voilà, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est une réaction, un peu, au modèle ambiant des maisons d'édition traditionnelles qui ont un modèle économique et où la création, quelque part, peut aussi un peu se noyer dans la recherche de profit?
Alors, ben, je pense que oui, parce que moi, je peux sortir, au départ, je le dis franchement, hein, moi, j'ai rarement plus de 1000 euros par mois, je gagne rarement plus de 1000 euros par mois, sauf quand je peux faire un peu d'enseignement. Mais donc du coup, pour sortir un livre, il faut que je le fasse avec rien. Et donc, ce qui est gratuit chez moi, pour moi-même, c'est mon temps et mes mains. Donc, c'est pour ça que je fabrique tout à la main aussi. Et donc, avec 100 euros, 200 euros, je peux sortir les premiers exemplaires du livre. Les tirages, par exemple, sont à 400 exemplaires, mais je ne les sors jamais 400 exemplaires d'un coup. Parce que ça aussi, il faut le gérer. Il y aurait un stock,
ouais, il faut
à gérer,
du stock, etc.
Il faut de la place. Donc moi, je fais les premiers exemplaires, les 10, 20 premiers exemplaires. Je les propose lors d'événements, moins en librairie qu'avant, où j'ai jusqu'à 50 librairies, où je travaillais avec 50 librairies. J'ai pas de librairie à moi. Et quand les vins sont vendus, etc., toc, tout de suite, j'en refabrique.
Comment les librairies, avec lesquelles vous travaillez, comment elles réceptionnent ce type d'ouvrages comme les vôtres qui sortent complètement du système, mais qui ont une originalité? Comment vous faites pour que ces librairies-là aient envie de le voir? Vous allez les rencontrer physiquement là aussi et leur présenter les...
Il n'y a pas le choix, il faut les rencontrer physiquement, il faut solliciter un entretien, une rencontre, on va dire. Puis je vais leur présenter. Alors déjà, je leur explique, ils acceptent ou non, hein, et puis je leur montre les objets une fois que je suis en entretien. En général, ça les intéresse beaucoup. Et une fois que je leur prépare quelques exemplaires, ils essayent dans leur librairie pour voir si ça fonctionne. C'est toujours un peu compliqué. Alors pour moi, c'est toujours ce qu'on appelle du dépôt.
D'accord, c'est la question que j'allais vous poser après.
Et c'est très compliqué à gérer le dépôt pour moi, mais bon, il n'y a que cette manière de faire.
C'est-à-dire que là, le dépôt, ça veut dire que le libraire doit vous recontacter, qu'il a vendu les ouvrages pour que vous puissiez toucher l'argent. Est-ce que c'est vous qui êtes obligé à chaque fois de faire la démarche?
Oui, non, c'est moi qui fais la démarche systématiquement. Même, je fais le point, je les appelle régulièrement, etc. On peut dire qu'entre le moment où on fabrique un livre et le moment où je reçois un peu de sous, il peut se passer 6 mois.
Ah oui, d'accord, ouais.
C'est chaud. Donc j'en fais moins des librairies en ce moment. Et pourtant, ça se passe souvent très bien.
Vous parlez d'événements. Vous disiez, bon, les librairies, là, ok, certaines vont accepter, d'autres non. Vous parlez d'une cinquantaine de librairies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et vous avez dit...
Plus maintenant, hein. J'ai arrêté là parce que
j'ai
perdu trop d'argent. Là.
D'accord. C'est trop dur. Et par contre, vous dites après, je fais des événements. C'est quoi les événements que vous faites pour effectivement pouvoir promotionner les livres?
Comme je publie beaucoup d'artistes, peintres et graveurs, du coup, je propose de faire des expositions dans les librairies ou dans des lieux improbables ou des lieux dédiés aux expositions.
Qu'est-ce que vous appelez des lieux improbables?
Ça peut être des petits salons artistiques, par exemple. Ça peut être... j'ai fait dans des librairies aussi, notamment. Mais le lieu le plus improbable pour un petit éditeur comme moi, c'est la Halle Saint-Pierre. J'ai organisé une grosse exposition où je peux vendre mes livres.
D'accord. La Halle Saint-Pierre à Paris, pour préciser pour les auditeurs et les éditrices. Oui, donc la Halle Saint-Pierre à Paris, au pied de la butte au Montmartre.
Voilà, ouais, tout à fait.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Daniel Bezaz, quand je vous écoute présenter votre maison d'édition, comment vous fabriquez les livres, comment vous allez rencontrer les libraires, comment vous rencontrez les auteurs sur un arrêt de bus, en discutant, vous n'avez pas l'impression d'être un peu, vous savez, Gepetto? Vous savez, qui fabrique la marionnette Pinocchio, puis qui est pas conscient au moment où il fabrique la marionnette qu'un jour cette marionnette va devenir va être habitée par la vie et puis qu'elle va se lancer. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu quelqu'un qui donne vie au papier, qui le rendait vivant et puis et qui permet effectivement à l'édition, en tout cas à une certaine édition, de vivre de manière complètement différente et de proposer à des lecteurs et des lectrices quelque chose de totalement original qui leur permet de vivre une expérience différente. Si on vous appelait le Gepetto de l'édition, c'est quelque chose que vous reconnaîtriez là-dessus ou pas?
Pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. En tout cas, je cherche toujours des solutions pour me débrouiller, ça c'est sûr. Et effectivement, il y a un livre avec un auteur, c'est d'abord beaucoup de rencontres. On discute beaucoup, on se rencontre, on travaille ensemble. Et je vois si je peux travailler au long terme avec l'auteur. Donc effectivement, le livre prend vie et la maison a pris vie, plus ou moins. Et comment dire, elle m'a échappé de toute manière et elle inclut une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis fatigué d'en faire, j'ai envie d'arrêter, comme toute personne qui fait une entreprise. Et non, je suis obligé de me ressaisir parce que de toute manière, les auteurs, ils sont encore là et ils m'appellent et ils me demandent des livres parce qu'eux-mêmes vont faire des expositions à droite, à gauche. Et donc, voilà, elle a presque sa propre vie. Et puis surtout, c'est un accompagnement long terme parce que quand je publie un livre avec un auteur, je sais que j'en ai pour 10 ans avec lui. Parce que comme je ne peux pas fabriquer toute l'édition d'un coup. Il y a des éditions, ça fait 15 ans que je les fabrique, donc j'ai fait une réédition. Ça reste 15 ans, ça fait 600, 700 livres, mais le livre reste disponible. C'est-à-dire que je suis dans l'édition du deuxième tirage, je suis à 295 sur 400. Et tant que l'édition n'est pas finie, moi, je m'engage à faire les livres, à moins d'un accident. Alors que contrairement au cycle de l'édition industrielle, on va dire. J'achète beaucoup de livres de ces maisons d'édition, hein, donc il n'y a pas de problème pour moi, hein, mais c'est un autre modèle. L'édition se fait à un moment donné. Et le temps de vie en librairie, il est très très court. Et ensuite, il rentre dans le catalogue et le fond de la maison d'édition. Et lorsque les livres ne sont plus disponibles pour des raisons à la fois, parce que l'édition peut être épuisée, lorsque les livres ne sont plus disponibles, il faut attendre. Il faut attendre que la maison d'édition ait la possibilité économique de refaire une nouvelle édition. Voilà. Ou alors de les trouver en occasion.
C'est quand même un modèle, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir, parce que c'est quand même un modèle de maison d'édition, effectivement, qui est extrêmement original, alors qui publie des livres extrêmement originaux. Est-ce que vous avez un site, comme on est à la radio, hein, ça se voit pas?
Alors non, en ce moment, le site est en panne.
D'accord.
Donc, je peux pas le proposer.
D'accord.
Mais on trouve beaucoup de vidéos sur YouTube.
Oui.
De mes œuvres de peintres et d'écrivains. Notamment par un vidéaste qui s'appelle Patrice Velu. VELUT, qui a une chaîne YouTube qui fait des courtes vidéos sur des artistes, mais des centaines d'artistes, je crois qu'il a fait plus de 1000 vidéos sur des artistes inconnus, improbables, voilà. Et il a fait aussi plusieurs petits films de 2-3 minutes sur Carnet Livre. Donc il suffit de taper le nom de Patrice Velu et Carnet Livre et vous avez tout de suite des vidéos. Voilà.
D'accord. Daniel Bezaz, on va faire une autre émission avec vous la semaine prochaine parce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est ça aussi qui est le deuxième aspect de votre vie. Oui. Vous avez d'une part donc la maison d'édition, donc Carnet en livre, Carnet avec un S et Livre donc avec un S. Mais vous avez aussi donc une autre corde à votre arc, vous en parliez tout à l'heure avec la Halle Saint-Pierre, donc qui est un musée, hein, qui est situé donc au pied de la butte Montmartre à Paris. C'est que vous faites également des expositions, Donc, on va vous proposer de faire la semaine prochaine une nouvelle émission donc littéraire sur la partie effectivement des expositions, puisque vous faites au moment où on parle donc une exposition donc à la Halle Saint-Pierre à Paris, hein, qui est un musée spécifique, un musée d'art brut un peu, on va dire.
Voilà. Totalement même.
Et vous allez nous expliquer un peu tout ça tout à l'heure, comment vous en êtes arrivé ça, donc la semaine prochaine. Et on rappelle donc votre maison d'édition, donc Daniel Bezaz, Carnet en livre, donc pour voir les vidéos.
Carnet livre.
Carnet livre, donc avec un S. Pour les deux. Carnet livre. Si on veut voir les vidéos, parce que c'est quand même intéressant, ça, on le recommande réellement aux auditeurs et aux auditrices de présence, de voir les livres que vous faites, parce qu'ils sont quand même extrêmement particuliers et extrêmement beaux. Donc ce sont les vidéos de Daniel Velu, V-E-L-U-T.
Patrice
Velu, je ne sais pas pourquoi je voulais l'appeler Daniel. Voilà, ça c'est en général j'en fais une par émission. Là.
On a dit beaucoup de noms depuis tout à l'heure.
Hein, donc... voilà, Patrice Velu, donc qui a fait ses... Donc qu'est-ce qu'il faut taper pour avoir les... On tape vidéo Daniel Bezaz et puis on
et
peut...
Patrice Velu et YouTube, enfin, excusez-moi, hein, c'est ce média-là. Non, c'est pas payant, c'est gratuit, bien sûr.
D'accord, ok, donc c'est pas payant, on peut aller voir dessus et c'est intéressant. Parce que j'ai regardé hier soir, effectivement, pour préparer cette émission, une vidéo... que vous faites notamment, et on en parlera la semaine prochaine, des peintures voilà, que vous faites, qui sont quand même très très particulières. Mais ça, on va l'aborder, on l'abordera semaine prochaine, parce que c'est une partie quand même de votre vie qui est, particulièrement intéressante, et surtout avec ces expositions que vous êtes amené à faire donc en ce moment à la Halle Saint-Pierre à Paris. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe Subercaz, pour cette semaine, avant de retrouver Daniel Bezaz la semaine prochaine, mais sur l'aspect plus particulier, effectivement, des expositions qu'il fait à la Halle Saint-Pierre à Paris, qui est située, je vous recommande d'y aller, si vous allez à Paris, au pied de la butte de Montmartre.
Là, oui, d'accord.
Tout à fait. Il est là, Saint-Pierre.
Le bureau est joli. Très bien. Merci beaucoup à vous. Et puis, tout simplement, on se rappelle très rapidement la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Eh bien, à la semaine prochaine, chers amis.
À la semaine prochaine. Au revoir.